Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Qu'y a-t-il de commun entre un Louis XIV et un Mussolini ? Qu'y a-t-il de commun entre, d'une part, la légende dorée écrite en 1260 par Jacques de Vauraroy et d'autre part, la conception de l'Empire de Frédéric Ier Barberousse développée quelques années auparavant ? Quel est le point de rencontre entre l'œuvre d'un Shakespeare ou d'un Corneille au XVIe-XVIIe siècle et celle du fameux pape Grégoire VII au XIe siècle ? Car oui, il existe entre ces hommes un point commun, qu'ils soient hommes politiques, hommes d'église, auteurs classiques, il y en a bien d'autres, on ne peut tous les citer ici. Ils ont tous été marqués, ils ont tous été fascinés par une figure de notre histoire, à savoir celle d'Auguste, héritier de César et fondateur de la Pax Romana. Né à Rome en 63 avant Jésus-Christ, Octave, car tel était son nom, avant de devenir plus tard Octavien, puis Auguste. Octave, donc, est le neveu de César. Il reste dans nos mémoires comme le vainqueur antipathique de Marc-Antoine et de Cléopâtre. D'autres, au contraire, retiennent l'image de la clémence de l'empereur à l'égard du conspirateur Cinna. La clémence, parfois signe, selon Sénèque, de supériorité et de force, celle d'un homme et de son régime. Alors qui fut Octave, futur Auguste, c'est ce que je vous propose de voir avec Pierre Combe. Pierre Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, ancien élève de l'école française de Rome, et vous êtes maître de conférences à l'université Paris 1, où vous enseignez l'histoire antique. Vous venez de publier une biographie consacrée à Auguste, une biographie parue aux éditions Perrin. Alors, je viens de parler de Louis XIV et les historiens modernistes évoquent le siècle de Louis XIV. Peut-on, au même titre, parler d'un siècle d'Auguste ?
C'est incontestable. D'ailleurs, il a vécu presque autant que Louis XIV. Certes, il parvient au pouvoir un peu plus tard que lui, enfin un âge plus avancé, mais il a incontestablement marqué sa période. Et d'ailleurs, dès sa mort, le Sénat à Rome a débattu sur la question de savoir si on ne pouvait pas justement parler d'un siècle d'Auguste en donnant effectivement son nom à toute cette période. La chose ne s'est pas faite tout de suite. Tibère, son successeur, a marqué quelques réticences, mais ensuite l'expression s'est imposée.
L'œuvre est vraiment fondatrice.
Oui, on peut dire que Auguste a fondé un nouveau régime, même s'il a voulu le dissimuler en se donnant l'apparence d'un restaurateur de la République. Il a incontestablement fondé un régime personnel, même s'il n'a pas voulu prendre le titre de roi.
Cette dissimulation, pardon, nous y reviendrons, elle est passionnante. Alors l'historien, nous penchons toujours sur les sources dans l'émission Un jour dans l'histoire. L'historien qui se penche sur la période antique a beaucoup moins de sources qu'un historien qui se penche par exemple sur l'histoire contemporaine. Quel est l'état des sources aujourd'hui ? Est-ce que l'on trouve d'autres documents, d'autres textes, ou bien est-ce que l'archéologie sert toujours autant l'histoire antique ?
Alors on trouve effectivement assez régulièrement des inscriptions, certaines posant problème, notamment en Espagne, on a retrouvé récemment des textes gravés d'édits qu'on a attribués à Auguste, mais l'authenticité de ces textes pose un peu problème et fait débat entre les historiens. Mais en dehors de ces textes un peu controversés, on trouve régulièrement de nouvelles inscriptions, en dehors de textes littéraires, disons canoniques, qui eux sont connus depuis longtemps. Et de ce point de vue, notre documentation sur Auguste, elle est certes moins riche que celle que l'on peut avoir sur des personnages plus récents de l'histoire moderne ou contemporaine, mais elle est quand même plus riche que celle qui concerne beaucoup d'autres empereurs.
Est-ce que nous n'avons pas tendance à peut-être voir l'œuvre d'Auguste à travers des écrits de ceux justement qui l'ont interprété, tel Corneille que je citais tout à l'heure, ou bien Shakespeare ?
Alors, les historiens dont nous avons conservé les textes qui évoquent Auguste sont effectivement des historiens qui lui sont postérieurs. C'est-à-dire, pour l'essentiel, Dion Cassius, qui écrit à la fin du 2e, au début du 3e siècle après Jésus-Christ, qui est un historien grec, et qui a laissé une œuvre historique très vaste, qui, sur certaines périodes, présente des lacunes, mais qui est assez complète sur le principat d'Auguste, hein, à l'exception de quelques années. De la même façon, Suétone, qui lui consacre une des biographies de la vie des douze Césars, a écrit au 2e siècle après Jésus-Christ, de même que Tacite, hein, qu'il évoque au début des annales. On pourrait dire autant de Plutarque, qui évidemment évoque aussi la figure d'Auguste et qui est un auteur de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Même chose pour Appien. Donc tous ces historiens sont postérieurs. Auguste lui-même avait écrit une autobiographie assez complète qui est perdue, mais il en avait aussi rédigé une sorte de résumé, ce qu'on appelle les Res Gestae Divi Augusti, qui, eux, ont été retrouvés sous forme d'inscriptions gravées en plusieurs fragments, mais ces fragments ont été reconstitués à partir de découvertes épigraphiques en Turquie actuellement. Donc on a conservé ce texte qui devait être placé à l'entrée du mausolée du prince.
Mais là, vous citez des historiens propres à la période, qui ne sont pas forcément des contemporains, mais qui sont proches dans le temps du siècle d'Auguste. Mais est-ce que notre vision n'est pas peut-être trop moderne de ce siècle? Je vous citais Corneille, mais bon, je citais également Louis XIV, Napoléon, dont vous parlez à la fin de votre biographie, qui l'évoque et également. Est-ce que cette vision trop moderne n'est-elle pas biaisée?
Alors, c'est une vision un peu biaisée parce que, évidemment, la figure d'Auguste, pour tous ces personnages, a été à la fois une référence parce qu'il avait fondé justement un pouvoir personnel durable, puisque l'Empire romain dure en Occident quand même jusqu'en 476. Mais d'un autre côté, c'est une figure qui pour eux était parfois un peu gênante parce que Auguste a eu la réputation d'être un piètre militaire, même si sous son principat, l'Empire s'est quand même étendu. L'Empire romain a connu une expansion. Alors certes, ce n'était pas principalement grâce à lui, c'est parce qu'il a su aussi faire appel à des proches dans son entourage qui étaient des militaires valeureux. Mais justement, cette piètre valeur militaire attribuée à la figure d'Auguste a gêné des personnages comme Napoléon ou Mussolini. Et même, dans une certaine mesure, Louis XIV, dans les décors peints de Versailles, la figure d'Auguste est présente, mais quand même moins que celle d'Alexandre ou de César. On retient dans ce cas-là effectivement d'Auguste le pacificateur, celui qui a mis fin aux guerres civiles, et ça pour Louis XIV c'était important dans la mesure où dans sa jeunesse il avait dû faire face à la Fronde lui aussi. Et là il y a peut-être eu effectivement des souvenirs de ce qu'avait pu faire Auguste pour mettre fin aux guerres civiles. Si on se penche sur les visions plus récentes, c'est souvent une vision assez négative, comme vous l'avez dit dans l'introduction, dans la mesure où on retient surtout d'Auguste son opposition à Marc-Antoine et à Cléopâtre, la façon dont il les a contraints au suicide après la victoire d'Axium. Et donc là, c'est effectivement plutôt la légende noire du personnage qui prévaut.
Alors, peut-être un dernier mot des sources. Il y a des zones d'ombre, et vous ne les cachez d'ailleurs absolument pas dans votre livre. Beaucoup de mystères persistent sur la vie d'Auguste.
Alors, des interrogations, bien sûr, sur tout ce qui concerne notamment sa jeunesse, les récits dont nous disposons ont bien sûr été écrits par des historiens qui connaissaient la suite et qui ont eu tendance à montrer comment, pendant toute sa jeunesse, le jeune Octave était prédestiné en quelque sorte à devenir le maître du monde. Et dans notamment la présentation du rôle de sa mère, Atia, puisqu'il a perdu son père très très jeune, on trouve des sortes de schémas narratifs que l'on retrouve aussi dans les récits qui évoquent la jeunesse des Gracques ou même la jeunesse de César. Et donc on a beaucoup de mal à faire la part des choses entre ces schémas narratifs qui se répètent et la réalité. Hein, on a notamment beaucoup de récits de présages aussi qui étaient censés annoncer la vocation d'Auguste à dominer le monde.
Alors, venons-en à l'histoire même d'Auguste. Il me semble important avant tout de replacer le contexte de l'époque. Nous sommes en 44 avant notre ère, le 15 mars très exactement, et ce jour-là, César tombe sous les coups d'une vingtaine de comploteurs. César avait un pouvoir personnel établi dès 49. Vous le présentez très bien dans votre chronologie qui est en fin de votre ouvrage. Ce pouvoir personnel est un pouvoir obtenu du Sénat et du peuple romain. Est-ce là le début, cette date de 44 avant notre ère, est-ce là le début d'une guerre civile ou au contraire la continuité de luttes beaucoup plus anciennes ?
Alors c'est en grande partie la poursuite de luttes anciennes, dans la mesure où au moment où César est assassiné, eh bien, il ne s'est passé que quelques mois depuis la défaite des derniers partisans de Pompée à la bataille de Munda, dans le courant du mois de septembre 45 avant Jésus-Christ. Donc il s'est écoulé très peu de temps et d'ailleurs Octave, assez vite confronté à l'opposition, au problème que lui pose le dernier fils survivant de celui qu'on appelle le Grand Pompée, hein, donc dernier fils qui s'appelait Sextus Pompée, qui a réussi à échapper un peu à cette défaite de Munda, à la tête d'une flotte, et qui donc fait le blocus de Rome à partir des îles de la mer Tyrrhénienne, hein, la Sicile, la Corse, la Sardaigne, de façon à empêcher les convois de blé d'arriver à Rome. Et de cette façon, Sextus Pompée essaye de peser sur la vie politique romaine pour essayer de se faire une place justement dans cette vie politique. Donc là, on voit qu'on est dans la continuation de cette lutte entre Césariens et Pompéiens. Mais en même temps, l'assassinat de César provoque une fracture au sein du camp césarien, puisque différents héritiers potentiels, en quelque sorte, s'affrontent. Il y a le jeune Octave, donc le petit-neveu du dictateur défunt, qui bénéficie davantage d'avoir été adopté dans son testament par César et donc de pouvoir porter son nom, de pouvoir hériter de la plus grande partie de sa fortune, à peu près les trois quarts. Mais il est encore très jeune, il a à peine 19 ans.
C'est ce qui est frappant dans votre livre, c'est cette jeunesse. Vous le dites, il a à peine 20 ans, il est né en 63, nous sommes en 44 avant Jésus-Christ. Cette jeunesse, cette précocité était une chose classique à l'époque.
On était amené, quand on appartenait à l'aristocratie romaine, à exercer des responsabilités assez tôt, mais pas des responsabilités aussi importantes. D'ailleurs, il a obtenu son premier consulat à 20 ans et en dehors des règles qui régissaient justement la carrière des honneurs à Rome. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et justement, dans le camp des partisans de César, il y avait des personnalités qui paraissaient plus à même de pouvoir recueillir la succession du dictateur parce que c'était des personnalités plus âgées, qui avaient plus d'expérience et qui notamment pouvaient bénéficier du soutien de l'armée. Je pense notamment à Marc-Antoine, bien sûr, qui était consul en même temps que César au moment où César est assassiné, qui était donc le collègue au consulat de César, mais également Lépide, hein, le maître de cavalerie de César, c'est-à-dire celui qui était le chef de la cavalerie romaine et qui, à ce titre, commandait les quelques troupes qui se trouvaient à Rome au moment des Ides de mars 44. Donc ces deux personnages paraissaient plus à même, hein, de pouvoir prétendre à la succession de César. Et le tour de force, en quelque sorte, du jeune Octave, c'est d'être parvenu à s'imposer à ces personnages et à les obliger en quelque sorte à lui ménager une place au sein de cette association, hein, qui a pris le nom de Triumvirat.
Alors, je reste encore un instant sur l'année 44 avant Jésus-Christ. Est-ce que ce sont deux conceptions du pouvoir qui s'opposent ? Est-ce que la mort de César, l'assassinat de César est un acte politique qui correspondrait à la volonté de défendre un régime plutôt républicain contre ce que l'on appellerait un dictateur ?
Alors, il faut, certes, on peut dire que les conjurés des Îles de Mars voulaient rétablir la République, mais il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle République à ce moment-là à Rome. Cette République n'était pas une démocratie. Hein. Il ne faut pas faire de Brutus et Cassius de fervents démocrates. La République qu'ils veulent rétablir, c'est le régime oligarchique qui s'était mis en place progressivement depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, à la chute de la royauté étrusque qui dominait Rome. C'est-à-dire que c'est une république où, certes, il y a des élections, mais où pèse réellement dans la vie politique les représentants des plus grandes familles de la noblesse romaine, c'est-à-dire ceux qui comptent déjà parmi leurs ancêtres des magistrats, des consuls, des prêteurs. Donc c'est une oligarchie qui défend ses privilèges face à un dictateur. César portait le titre de dictateur. La dictature était une magistrature qui existait, qui était prévue dans les institutions romaines. Un dictateur qui, dans une certaine mesure, a institué un régime, je dirais, plus égalitariste, dans la mesure où il s'appuyait beaucoup sur la plèbe urbaine, sur l'armée, contre justement les représentations de cette aristocratie romaine.
Dans la tradition grecque ? Dans une certaine tradition grecque, le dictateur plus proche de la plèbe que...
Oui, on peut le dire. De toute façon, tous ces aristocrates romains sont nourris de lettres grecques et ont tous leurs références dans l'histoire et la littérature grecque. Brutus et Cassius pensent justement à ceux qu'on appelle à Athènes les tyrannoctones, ceux qui ont mis fin donc à la dernière tyrannie à Athènes. Et César, lui aussi, est hanté, marqué par, évidemment, l'image d'Alexandre le Grand. On sait qu'au moment où il est assassiné, il projetait une grande expédition en Orient contre les Parthes pour marcher un peu, justement, sur les traces d'Alexandre.
Je reçois Pierre Combe, auteur d'une biographie d'Auguste, parue aux éditions Perrin. Pierre Combe, vous êtes professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans un instant. Un jour dans l'histoire reçoit Pierre Combe. Pierre Combe, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et de l'école française de Rome. Vous venez de publier une biographie consacrée à l'empereur Auguste, parue aux éditions Perrin. Alors, nous en sommes à cette époque charnière de la mort de César et de la création du second triumvirat, car il y eut un premier triumvirat. Et ce second, en fait, ce premier triumvirat, dites-vous, va avoir son identité grâce au second, comme vous l'expliquez dans votre livre.
Oui, parce que aux yeux, disons, pour les Romains de cette époque, il n'y avait qu'un triumvirat officiel, c'est celui que les historiens contemporains appellent le second triumvirat, parce que ce qui caractérise l'association de Marc-Antoine, Lépide et Octave, c'est le fait qu'ils détiennent une magistrature officielle. On a créé cette magistrature qui portait donc le titre de triumvirat. La titulature exacte, c'était un triumvirat pour restaurer la République, pour en quelque sorte lui donner en fait de nouvelles bases, et les triumvirs possédaient à ce titre des pouvoirs tout à fait officiels. Alors que ce que nous appelons maintenant le premier triumvirat était une sorte d'alliance au culte tout à fait informelle entre César, Pompée et Crassus dans les années, la fin des années 60 avant Jésus-Christ, juste avant le consulat de César en 59 avant Jésus-Christ. Donc ce n'est que par analogie qu'on a appelé le premier premier triumvirat du fait de cette association donc de l'épide Marc-Antoine et Octave.
Donc nous avons ces trois hommes, Octavien, Marc-Antoine et l'épide. Le plus jeune est bien évidemment Octavien. Et cette jeunesse est loin d'être un handicap et peut-être même un atout. Vous le présentez ainsi, puisque beaucoup pensent qu'ils vont réussir à profiter de cette jeunesse et profiter de ce jeune homme. Et en fait, il n'en est rien.
Oui, l'habileté de celui qui s'appelle maintenant Octavien, puisqu'en vertu testament de César, il était adopté par César. Il porte donc en latin le surnom d'Octavianus, hein, puisqu'il porte les noms de César, et il n'a plus qu'un, il a un surnom supplémentaire qui est un dérivé de son nom d'origine. Donc c'est pour ça que les historiens modernes l'appellent Octavien. Il a su très habilement souvent présenter comme le plus faible, et de cette façon il a pu trouver des appuis auprès d'hommes politiques qui ont essayé de jouer de cette prétendue faiblesse, de cette supposée faiblesse, pour éliminer notamment Marc-Antoine, qui paraissait beaucoup plus dangereux. Et ça a été le calcul de Cicéron avant même la conclusion de ce triumvirat. Cicéron a pensé qu'il pourrait facilement manipuler ce jeune homme pour éliminer de la vie politique Marc-Antoine, l'épide et puis d'autres césariens qui lui paraissaient plus dangereux. Ensuite, eh bien, Octavien a su prendre cette distance avec Cicéron, se réconcilier avec Marc-Antoine après s'être imposé face à lui, ensuite, eh bien, laisser Cicéron être éliminé à la demande de Marc-Antoine. Hein,
Je vous cite, vous dites, ce sont les trois membres du triumvirat, ils sont condamnés à s'entendre.
Oui, ils sont condamnés à s'entendre parce que la situation n'est pas simple pour eux. Ils sont confrontés aux assassins, de César, qui certes ont dû quitter Rome et l'Italie. Marc-Antoine, lors des funérailles de César, a très bien su retourner la population romaine de son côté. Ça, c'est la fameuse scène qui a inspiré Shakespeare dans Jules César. Alors, Brutus et Cassius sont partis, mais ils sont partis en Orient et ils ont pris le contrôle de toutes les provinces de langue grecque de l'Empire, où ils cherchent des appuis pour lever une armée susceptible d'affronter les triumvirs. En outre, en Occident, eh bien, les triumvirs sont confrontés à la menace que représente Sextus Pompée, dont je parlais tout à l'heure, et qui a pris le contrôle d'une partie de la mer Tyrrhénienne. Et c'est cette situation difficile qui explique ce qu'on a beaucoup reproché par la suite à Octavien, c'est-à-dire les proscriptions, c'est-à-dire ces listes d'aristocrates romains, soit des sénateurs, soit des chevaliers romains qui étaient condamnés à mort. On appelait la population à les dénoncer et même à les tuer, moyennant récompense. Donc c'est en quelque sorte pour terroriser leurs adversaires, et également pour en quelque sorte bien contrôler l'Italie au moment où ils s'apprêtent à aller affronter Brutus et Cassius en Orient, que les triumvirs décident ces proscriptions.
Alors justement, le premier acte du triumvirat, vous venez de le dire, est un acte de vengeance en quelque sorte. Il s'agissait de punir les assassins de César. On en profita pour écarter les adversaires politiques. Et c'est dans cette lutte contre les assassins de César que va se forger une légende, celle d'un Octavien piètre militaire. Alors, cette légende est-elle fondée, Pierre Combes ?
Alors ça, c'est très, très difficile de le dire. On a effectivement régulièrement dans les biographies d'Auguste des allusions au fait qu'au moment de la bataille, il n'était pas là, il était malade, il n'arrivait pas à se réveiller. Alors, il faut peut-être faire la part des calomnies colportées par Marc-Antoine. On sait que parmi les sources utilisées, notamment par Suétone dans les vies d'Auguste César, il y avait des écrits très polémiques diffusés par Marc-Antoine et ses partisans qui critiquaient également les humbles origines supposées d'une bonne partie des ancêtres d'Octavien. Donc ça participe de la même volonté un peu de dénigrer ce personnage, et certaines traces de ces calomnies, alors même que pourtant Octavien est sorti finalement vainqueur de l'affrontement avec Marc-Antoine, certaines traces de ces calomnies ont subsisté dans l'œuvre de Suétone. Mais incontestablement, il ne semble pas avoir été, disons, un chef de guerre de la trempe de César, hein, puisque la plupart des victoires qu'il a pu remporter ont été remportées grâce à des collaborateurs. Ce qu'on peut mettre en revanche à son crédit, c'est le fait qu'il a su trouver des collaborateurs compétents, efficaces et fiable, hein, ce qui lui a permis quand même de remporter des victoires militaires et d'éviter le sort de César, puisque lui n'a pas fini assassiné. Et quelqu'un comme Agrippa, par exemple, s'est montré un collaborateur tout à fait dévoué, loyal, efficace et compétent.
Les grands militaires. Je cite un de vos passages, page 57. Vous dites « Le fils du divin Jules ne sortait guère grandi de la victoire de Philippe, dont toute la gloire rejaillit sur Marc-Antoine. En outre, Marc-Antoine avait fait preuve de magnanimité envers les vaincus en rendant hommage au corps de Brutus. À l'inverse, Octavien avait manifesté une cruauté acharnée qu'il justifia par son devoir de vengeance, mais qui lui valut les injures et les quolibets des vaincus qui défilaient devant lui. La tête de Brutus fut ainsi déposée au pied d'une statue de César à Rome. Octavien était-il un homme cruel ?
Bon, je crois qu'il ne faut... Enfin,
c'est alors, un geste politique.
C'est un geste politique. Alors, certes, dans les récits que nous avons de la bataille de Philippe, Marc-Antoine apparaît beaucoup plus magnanime qu'Octavien. Mais au moment des proscriptions, il faut quand même savoir qu'on a affiché, enfin, on a exposé sur les rostres, hein, sur la tribune aux harangues à Rome, la tête et les mains coupées de Cicéron. Et que ça, ça a été fait à la demande de Marc-Antoine. Je dirais plutôt que Octavien et Marc-Antoine avaient, si je puis dire, chacun disons, leur tête de Turc, et que voilà, ils ont tenu particulièrement à humilier un de leurs adversaires. C'était pas le même, mais je ne sais pas si on peut faire d'Octavien quelqu'un de beaucoup plus cruel que disons la moyenne des hommes politiques romains de cette époque.
Alors on ne le répétera jamais assez, c'est un homme très jeune. Il se forme finalement au jour le jour. Il y a une question très épineuse, très importante que vous décrivez, c'est l'attribution des terres aux vétérans. Cette question militaire était très importante à l'époque. Elle est traitée un peu de manière caricaturale dans Astérix et Obélix, mais ici il s'agissait d'une affaire très 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 sérieuse. Il apprend, oui, sur le tas, il arrive à se développer au fur et à mesure un jugement politique, un jugement pragmatique avec le temps.
Oui, et puis il reçoit, comme je disais un peu tout à l'heure, des conseils, à la fois des conseils des amis de son âge, hein, comme Agrippa, qui était à peu près de son âge, mais également des conseils et également, je dirais aussi, d'un appui financier de certains partisans de César plus âgés, plus expérimentés que lui. Je pense notamment à certains hommes d'affaires, hein, qui lui ont donné des fonds, justement quand il s'agissait de distribuer des terres à ses soldats. Je pense également à une figure qu'on a un peu du mal à cerner faute de témoignages, mais une figure qui a dû quand même jouer un rôle, c'est celle de son beau-père, puisque la mère d'Octavien s'était assez vite remariée après le décès de son père, avec donc un noble romain qui s'appelle Lucius Marcus Philippus, qui a manifestement beaucoup conseillé le jeune Octavien et qui a appuyé ses débuts en politique. Alors même si Attia, sa mère, et son beau-père lui avaient déconseillé d'accepter donc l'héritage de César, ensuite, voyant que finalement, bon, bah, il avait voulu accepter cet héritage et qu'il avait repris donc le nom de César, eh bien son beau-père l'a appuyé et l'a sans doute conseillé. Octavien a sans doute aussi beaucoup observé, hein, le comportement aussi de tous ces hommes politiques.
Alors, il y a beaucoup d'autres faits à évoquer, notamment la fameuse bataille contre Sextus Pompée. La guerre contre Sextus Pompée est un des tournants de l'histoire d'Auguste. la victoire était d'autant plus importante que la Sicile, qui était aux mains de Sextus Pompée, cela permit de lever le blocus contre Rome. Ceci dit, malgré cette victoire, on a l'impression que Marc-Antoine garde toujours une longueur d'avance par rapport à Auguste.
Alors là, il n'est pas encore Auguste. Marc-Antoine, oui.
Par rapport à Octavien.
Oui. Alors, Marc-Antoine a d'ailleurs contribué en partie à cette victoire finale d'Octavien, parce que il lui a notamment prêté des troupes et notamment des vaisseaux. Certains proches de Marc-Antoine ont également aidé Octavien à ce moment-là, et c'est important parce que c'est à ce moment-là aussi que certains de ses proches de Marc-Antoine finalement se rallient à Octavien. Je pense notamment à quelqu'un comme Marcus Valerius Messalla Corvinus, hein, qui devient ensuite un dignitaire, si je puis dire, du nouveau régime fondé par Octavien, mais qui au départ était un proche de Marc-Antoine. Alors Marc-Antoine est encore auréolé d'un certain prestige militaire qui commence à être écorné parce que ses succès contre les Parthes ne sont pas aussi éclatants qu'il l'aurait voulu. Et surtout, cette victoire sur Sextus Pompée permet à Octavien de se forger l'image d'un défenseur, d'un protecteur de l'Italie. Au moment justement des distributions de terres aux vétérans de la bataille de Philippe, il y a eu des confiscations de terres importantes en Italie. Ça avait entraîné ce qu'on appelle la guerre de Pérouse, donc une véritable guerre civile en Italie. Au contraire, après la défaite donc de Sextus Pompée en 36 avant Jésus-Christ, Octavien commence à avoir une image plus positive. Il est très bien accueilli au moment où il revient à Rome, et il soigne cette image en entamant une campagne au nord-est de l'Italie, du côté de l'Illyrie, pour protéger justement tous ces confins nord-est de l'Italie qui étaient régulièrement menacés par des incursions donc de ces peuples illyriens et dalmates. Et c'est d'ailleurs là qu'il commence à acquérir un début de gloire militaire quand même.
Alors justement, Octavien, qui apparaît comme le défenseur exclusif de Rome et de l'Italie, c'est ce que je vous propose, Pierre Combe, de voir dans un instant. À tout de suite.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Pierre Combe, auteur de la biographie consacrée à l'empereur Auguste, une biographie parue aux éditions Perrin. Alors, nous évoquons Octavien, futur Auguste, qui apparaît comme le défenseur exclusif de Rome et de l'Italie. C'est une image qu'il cultive et ce qui lui permet en fait de prendre le pas sur Marc-Antoine, que vous avez présenté effectivement comme un personnage de premier plan, un militaire de premier plan.
Oui, après la bataille de Philippe, on avait confié à Octavien la tâche justement de répartir les terres entre les vétérans, Marc-Antoine devait penser qu'il ne s'en sortirait pas et qu'il serait victime justement des troubles que ces distributions de terres allaient provoquer. Ça n'est pas le cas. Et après justement ces succès sur les Illyriens et les Dalmates, Octavien insiste beaucoup sur le danger supposé que représenterait l'alliance de Marc-Antoine et de la reine d'Égypte Cléopâtre pour l'Italie. Il prétend que Cléopâtre rêve de régner sur Rome tout en déplaçant la capitale de l'Empire à Alexandrie. Il fait saisir chez les Vestales le testament de Marc-Antoine pour appuyer justement son propos en montrant que Marc-Antoine projette de se faire enterrer à Alexandrie aux côtés de Cléopâtre. Et donc, là aussi, il exagère hein, cette menace que représenterait l'Égypte pour susciter l'adhésion de l'Italie à ses côtés, adhésion de l'Italie, mais aussi d'une bonne partie des provinces occidentales, hein, puisque ce sont les provinces que les partages entre les triumvirs lui ont attribué, et il reçoit donc ce fameux serment, qui lui donne le titre de doux, hein, c'est-à-dire de chef, et donc lui confère cette légitimité à affronter Cléopâtre. Il prend soin de déclarer uniquement la guerre à Cléopâtre et non à Marc-Antoine, de façon à ne pas faire apparaître cette guerre comme une nouvelle guerre civile.
Est-ce qu'il n'y a pas justement une lassitude de la population face à ces guerres civiles ? Et là encore, est-ce qu'Octavien ne joue pas sur l'opinion en montrant que c'est Marc-Antoine finalement qui trouble cette paix civile?
Incontestablement, Octavien a bénéficié sans doute de cette lassitude que les Italiens et une bonne partie des provinciaux d'Occident ressentaient après ce siècle quasiment de guerre civile. Et donc c'est pour ça qu'il était très important pour lui de faire la guerre au royaume d'Égypte et non pas à Marc-Antoine, même si dans les faits c'est encore une guerre civile, mais il était très important de la faire apparaître comme une guerre étrangère contre cette reine égyptienne qui en fait donc était descendante d'une dynastie macédonienne, hein, mais il était très important de la faire apparaître comme une dangereuse orientale susceptible de menacer l'Italie et l'Occident.
La victoire pour Octavien est à Actium, c'est bien cela ?
Oui, cette victoire finalement a été décisive, même si sur le moment elle apparaît assez indécise, dans la mesure où Marc-Antoine et Cléopâtre ont réussi quand même à prendre la fuite, à s'échapper du champ de bataille. Cette fuite de Marc-Antoine et de Cléopâtre démoralise l'armée de terre de Marc-Antoine à un tel point qu'ils n'ont plus les moyens de continuer la lutte, et on peut considérer la suite des opérations militaires comme une sorte, disons, entre guillemets, de promenade militaire hein, d'Octavien qui le mène à Alexandrie, dont il s'empare le 1er août 30 avant Jésus-Christ.
Alors, c'est là où Octavien dissimule, finalement, lorsqu'il apparaît, une fois revenu à Rome, comme le défenseur des traditions romaines. Alors que peu à peu, le régime évolue.
Oui, il instaure à partir de ce moment-là vraiment un régime qui, dans les faits, ressemble beaucoup à une monarchie, mais il prend le soin d'apparaître comme un restaurateur de la République. C'est tout le sens des fameuses séances qui ont lieu au Sénat au mois de janvier 27 avant Jésus-Christ, où il déclare aux sénateurs que eh bien, sa tâche est accomplie et qu'il donc leur remet l'État, comme il pouvait s'y attendre, hein, les sénateurs lui demandent de continuer à jouer un rôle éminent dans cet État romain. Il faut dire que ce Sénat avait commencé à être épuré dès l'année précédente, en 28 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'un ancien partisan de Marc-Antoine, rallié un peu au dernier moment à Octavien, eh bien, propose qu'on lui décerne le surnom d'Auguste.
Alors, justement, c'est à ce moment de votre ouvrage que vous décrivez le personnage, vous en faites un portrait physique, un portrait psychologique. Il a 36 ans, l'âge mûr. Pourriez-vous refaire ce portrait pour nous ?
Alors, ce portrait, je l'ai fait avec beaucoup de prudence, hein, parce que c'est un portrait qu'on peut essayer de dresser essentiellement à partir du témoignage de Suétone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il subsiste dans l'œuvre de Suétone des traces d'écrits polémiques donc véhiculés par Marc-Antoine et ses partisans qui dénigraient justement à la fois les origines et puis même le caractère d'Auguste. Bon, on peut quand même avoir, disons, quelques certitudes, c'est-à-dire quelqu'un qui cherchait vraiment à composer un personnage, hein, qui a dû sans doute faire de grands efforts sur lui-même pour se composer ce personnage. Et là, sans doute que finalement, ses origines assez... J'étais relativement modeste, hein. Il n'était pas issu d'une grande famille de la noblesse romaine, c'est uniquement par l'adoption de César qu'il a réussi à s'intégrer à cette noblesse romaine, également par son dernier mariage, hein, le mariage le plus durable avec Livie, qui elle appartenait à une grande famille de l'aristocratie romaine. Donc c'est un peu par ce biais-là qu'il a pu s'introduire dans ces milieux dirigeants romains et c'est peut-être ce qui explique la nécessité toujours de se composer un personnage, d'essayer d'être maître de lui-même, de ses émotions. On a quelques indications de Suétone qui raconte que même avec, paraît-il, son épouse, eh bien, il préparait ses discussions, il prenait des notes chaque fois qu'il devait s'adresser à quelqu'un. Donc peut-être un certain manque de confiance en lui qu'il a dû surmonter et également surmonter certaines maladies, certaines infirmités physiques qui pouvaient le faire souffrir. Là, on peut penser à d'autres personnages plus contemporains qui ont essayé comme ça de se forger un masque de jeunesse et de dynamisme alors qu'ils pouvaient être atteints de divers maux et souffrances physiques.
Vous avez deux qualificatifs qui sont assez forts. Vous dites qu'il était angoissé et insomniaque.
Oui, alors Suétone insiste beaucoup là-dessus. Alors certains historiens modernes en ont déduit qu'il était peut-être hanté par la mauvaise conscience des crimes qui avaient été commis à l'époque des proscriptions et plus généralement pendant toute l'époque triumvirale et l'époque des guerres civiles. Je crois que il faut pas croire que tous les problèmes étaient réglés après Axiom. Hein. Le pouvoir personnel n'allait quand même pas tout à fait de soi à Rome, il était encore contesté et donc ça peut quand même expliquer à mon avis une certaine tension du personnage hein, qui était quand même conscient des oppositions qu'il continuait à susciter. J'évoque hein, certaines conspirations hein, qui ont eu lieu pendant tout son principat. Il y a le problème de la succession hein, qu'il a aussi beaucoup taraudé parce que dans la mesure où il se présentait comme un restaurateur de la République et non comme un roi, il ne pouvait pas transmettre de façon héréditaire son pouvoir et en plus il n'a jamais eu de fils. Donc ça compliquait beaucoup les choses.
Vous le présentez comme un homme assez volage, pourtant il est visiblement très amoureux de Livie et au-delà de cet amour, la question du mariage semble une question très importante pour lui. On le voit dans le conflit avec sa fille Julie et avec ses différentes lois qu'il prendra contre les adultères finalement.
Alors, le mariage dans l'aristocratie romaine, et ça depuis l'époque républicaine, est très important puisque le mariage prolonge hein, le plus souvent des alliances politiques entre différentes factions aristocratiques. Ça, c'est quelque chose qui était déjà courant à l'époque républicaine. Et de ce point de vue, il n'y a pas de rupture avec l'instauration du principat. Auguste n'ayant qu'une fille, Julie, eh bien, il l'a mariée avec tous les héritiers potentiels auxquels il a songé, c'est-à-dire d'abord son neveu Marcellus, ensuite son collaborateur Agrippa, et après la mort d'Agrippa, alors que là, Julie Agrippa avait une descendance nombreuse, il a cru porter, disons, à un point d'aboutissement son dispositif successoral en mariant Julie à son beau-fils, Tibère, le fils du Livie, hein, le fils que Livie avait eu d'un premier mariage, de façon à faire de Tibère une sorte de tuteur pour ses petits-fils. Mais le mieux est l'ennemi du bien, là, et effectivement, le mariage de Julie et de Tibère a été une catastrophe, dans la mesure où les deux époux ne se sont pas du tout entendus, et ça a eu des incidences politiques, puisque Tibère a refusé hein, ce rôle de tuteur qu'on lui donnait, à partir du moment notamment où Caius et Lucius César, les petits-fils d'Auguste, arrivaient en âge d'exercer certaines responsabilités où Tibère se sentait inutile. Et Julie, de son côté, eh bien, a trempé dans certaines conspirations après l'exil que son époux Tibère s'était imposé sur l'île de Rhodes. Et Auguste a craint de voir Julie contracter de nouvelles unions plus ou moins légitimes avec certains personnages dangereux, hein, notamment un fils survivant de Marc-Antoine. Et donc, il a craint là, de voir le pouvoir qu'il prévoyait pour ses petits-fils contesté. Et c'est la raison pour laquelle il a banni Julie. Alors, quant aux lois contre l'adultère, eh bien là, il s'agissait aussi pour Auguste d'encourager la natalité au sein de l'aristocratie sénatoriale. Hein. Ça, c'était quelque chose qui le préoccupait beaucoup. Et donc, tout en étant lui-même assez volage et adultère, eh bien, il a voulu réprimer cet adultère et encourager la natalité, surtout dans les milieux, disons, privilégiés de la société romaine.
Quelques mots, Pierre Combe, sur la religion. La religion, sans doute, est très importante et les présages jalonnent d'ailleurs votre livre. Les présages ont trait également à la religion.
En ce qui concerne Auguste, comme je le disais tout à l'heure, tous les présages les récits de présages qui émaillent justement les vocations de sa jeunesse ont été écrits après coup. Il s'agissait de montrer comment il était prédestiné à l'Empire. Alors lui-même était très superstitieux, d'après ce que nous dit Suétone, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas du tout chez lui la trace d'un certain scepticisme que l'on peut trouver à la même époque chez d'autres personnages de premier plan de la vie politique romaine. Je pense par exemple à Cicéron. On le voit très attentif justement à toute une série de présages, à certaines superstitions. Est-ce que c'est lié justement à ce milieu familial, hein? Donc sa famille était originaire d'une petite ville du Latium, Vélitre. Est-ce que là on retrouve des traces de certaines superstitions dans ce milieu? C'est vrai que de ce point de vue, il apparaît peut-être un peu différent de certains autres grands aristocrates contemporains qui donne une image beaucoup plus sceptique. Mais là, ça pose évidemment le problème de la sincérité de ses convictions religieuses qu'on a beaucoup de mal à cerner. Mais il a tenu à restaurer la religion romaine traditionnelle, notamment en restaurant certains sacerdoces, certaines prêtrises qui n'étaient plus exercées au moment des guerres civiles, parce que on avait un peu négligé de désigner justement des prêtres pour les exercer. Il a tenu, lui, à les restaurer, à même redonner vie, à restaurer certains rites dont les Romains avaient oublié même la signification à son époque.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Pierre Combe, auteur d'une biographie consacrée à l'empereur Auguste, parue aux éditions Perrin dernièrement, au mois d'août dernier. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous nous retrouvons pour la conclusion d'un jour dans l'histoire. Je reçois Pierre Combe et nous évoquons la personnalité, le personnage d'Auguste et d'Octavien, car avant de devenir Auguste, il y eut Octave, puis ensuite Octavien. On s'aperçoit à la lecture de votre livre, Pierre Combe, que finalement, le pouvoir personnel n'est pas de tout repos. Il y a toujours quelqu'un contre qui se battre et finalement une vision à imposer. Est-ce que Auguste ou Octave, comme vous le souhaitez, avait cette vision du pouvoir monarchique?
Il en avait l'ambition. Plus que César, il était conscient que les Romains n'accepteraient pas de le voir prendre le titre de roi. Et donc, on peut, si vous voulez faire une formule, dire qu'il a été empereur parce qu'il ne pouvait pas être roi. Et donc, il a exercé ce pouvoir d'imperium qui était un pouvoir qui existait déjà à l'époque de la République, qui était le pouvoir que détenaient les magistrats supérieurs, les préteurs et les consuls, un pouvoir qui avait même des racines dans la royauté étrusque antérieure, mais en apparaissant avant tout comme un détenteur de l'imperium, comme un impérator, c'est-à-dire comme un général victorieux, il n'apparaissait pas en rupture complète avec la République. Mais il a su se forger, tout en respectant les institutions républicaines, en les vidant un peu de leur substance, il a su se forger les instruments d'un pouvoir royal, notamment en réunissant autour de lui un conseil d'amis, comme le faisaient déjà les magistrats sous la République, mais en commençant à le structurer un petit peu plus, peut-être, notamment à la fin de son principat, quand il était très âgé, en mettant au point ce qu'on appelle le cursus publicus, c'est-à-dire un système de poste impérial, de transmission des nouvelles, qui lui permettait de transmettre ses instructions un peu dans tout l'Empire. Donc il y a des instruments, oui, d'un gouvernement monarchique qui commence à se développer, même si la plupart de ces instruments ont été développés considérablement par ses successeurs. Auguste n'a pas eu le temps de tout faire lui-même.
C'est un nouvel âge d'or. Est-ce qu'il y a une aspiration finalement du peuple romain et de l'Italie à la paix, ce qui lui aurait facilité la tâche ?
Ah, ça me paraît incontestable. Alors, Auguste a tenu d'ailleurs à très officiellement décréter au moment des Jeux séculaires en 17 avant Jésus-Christ l'ouverture effectivement d'un nouvel âge d'or. Ce thème de l'âge d'or est très important chez les Romains. Il s'agit pour eux, en quelque sorte, de revenir, dans une conception un peu cyclique du temps et de l'histoire, de revenir à l'époque où le dieu Saturne régnait sur le Latium et où il avait apporté au Latium la paix et la prospérité. D'ailleurs, de façon très significative, le trésor du peuple romain était déposé sur le forum, dans le podium, dans le soubassement de ce temple de Saturne, qui était donc un souvenir de cet âge d'or qu'Auguste a voulu restaurer. Et c'est ce qu'exprime aussi, bien sûr, l'autel de la paix d'Auguste, qu'il a très officiellement inauguré en 9 avant Jésus-Christ, après avoir posé la première pierre en quelque sorte en 13 avant Jésus-Christ, le jour anniversaire de son épouse Livie. Un autel de la paix qui évoque dans les bas-reliefs, dans les sculptures, cet âge d'or, en même temps qu'il représente toute la famille impériale en procession.
François Bluche disait de Louis XIV que le soleil avait ses taches. En ce qui concerne Auguste, finalement, et malgré cet âge d'or, il a encore de nombreuses difficultés. Il y a notamment ce conflit avec Tibère.
Il y a le problème de la succession, le drame qu'a pu représenter pour lui la disparition de ses petits-fils et le fait qu'il a dû à ce moment-là se résoudre à adopter Tibère et en faire son successeur. Alors, avait-il des réticences? C'est ce qu'écrivent Suétone et Tacite, mais comme ces deux historiens sont très hostiles à Tibère, ils ont peut-être aussi un peu forcé la note. Je crois que Auguste était conscient qu'il n'avait pas tellement le choix. C'est vrai que la fin de son principat est aussi assombrie par des revers militaires. Il avait pensé pouvoir annexer toute la Germanie entre le Rhin et l'Elbe, et puis il doit y renoncer au moment où trois légions disparaissent lors de la défaite qu'on appelle du Teutoburg, ces trois légions conduites par le légat Varus en 9 après Jésus-Christ.
Pierre Combe, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Auguste, paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt.